France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. La République En Marche se déchire entre menaces de démission et amabilités en tout genre. Quelques heures après la démission de son numéro 2, Pierre Person, hier, le parti présidentiel a perdu deux autres représentants. La députée Aurore Berger démissionne de son poste de porte-parole et le député de la Vienne, Sacha Houlier, annonce lui aussi son départ de l'instance décisionnaire de La République En Marche. Il en était seulement invité. Le gouvernement va contre-expertiser le scénario de fermeture de l'usine de Bridgestone à Béthune dans le Pas-de-Calais. Il ne croit pas aux arguments des dirigeants japonais qui se sont exprimés hier par visioconférence. Une deuxième réunion à propos de cette fermeture annoncée doit avoir lieu d'ici 15 jours ou 3 semaines tout au plus. Parallèlement, sachez que le MEDEF réclame au gouvernement 400 millions d'euros de plus pour aider les salariés à se reconvertir. La bataille des positions commence donc au ministère du Travail. Nous y reviendrons dans le journal de 6h30. Dans une demi-heure également, nous ferons le point sur la pandémie de Covid-19 et surtout sur ses conséquences économiques. Alors que les chiffres de la maladie sont scrutés jour après jour, l'Angleterre envisage très sérieusement un reconfinement. Les pubs anglais vont fermer tous les soirs à partir de 22h ce mardi. Le Premier ministre Boris Johnson a prévu une allocution télévisée dans la soirée tout à l'heure. En Irlande, pendant ce temps, sachez que les pubs rouvrent au public. Nous irons sur place à 6h30. Paris perdu pour l'extrême droite en Italie. La Toscane et les Pouilles restent finalement à gauche, même si les résultats ont été serrés. L'extrême droite ne s'empare que d'une région, les Marches. Pour ce qui est de la réduction du nombre de parlementaires italiens, le oui au référendum l'a emporté hier. Et puis rappelons la mort de Michael Lonsdale, hier à l'âge de 89 ans. Comédien des avant-gardes comme des productions populaires, il aura eu 60 ans de carrière et une consécration pour ce chrétien fervent pour son rôle de moine dans Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois.
François Mitterrand est élu président.
Une série d'espionnage au cœur des services secrets des années 80, projet Orlov sur France Culture.
Très bien, passez-moi la communication dans le salon de bibliothèque.
Un agent disparaît, crise à l'Elysée, ambassade sur écoute, course-poursuite de Londres à Genève jusqu'aux portes du désert algérien. Projet Orlov, série d'espionnage haletante, entièrement tournée en décor naturel, en son immersif. Le feuilleton à 20h30 et sur franceculture.fr.
Vous avez un quart d'heure pour que je vous parle d'actu ? Bonjour, je suis Céline Asselot et chaque jour on a rendez-vous pour le quart d'heure. Un nouveau podcast dans lequel je vous raconte ce qui a marqué la journée, ce qui m'a emballé, questionné. Et vous aussi, sans doute. J'irai chercher les réponses à nos questions avec mes invités.
Le quart d'heure.
Et les journalistes de Radio France.
L'info autrement. Un podcast à retrouver du lundi au vendredi dès 17h30 sur l'appli Radio France.
Il est 6h03, vous écoutez toujours France Culture. Nous retrouverons Toufik Hakem pour le réveil culturel dans quelques minutes. Mais avant cela, c'est le monde vivant de Bruno David. L'araignée est à l'honneur.
Été 1719 ou peut-être 1723, le souvenir s'en est perdu. Il fait très chaud sur les Pouilles tout au sud de l'Italie. Antonio, dans son verger d'olivier, bine le pied des arbres centenaires. Il sent à peine un petit agacement entre deux orteils. Le soir même, l'agriculteur entre dans une danse trépidante et désordonnée. Il a du mal à maîtriser ses mouvements qui deviennent saccadés. Il est atteint de tarentisme. Le matin, il a été mordu par une Lycosa tarantula, la lycose de Tarente, autrement dit une tarentule. Belle araignée beige à grise dont le corps peut atteindre 3 cm, plus du double avec les pattes. Jolie bête. Cette belle araignée, qui tire son nom de la ville de Tarente, appartient au groupe des araignées-loups. Il faut dire qu'elle est une redoutable tueuse. La tarentule affectionne les terrains arides des régions méditerranéennes. Elle y creuse un terrier d'une trentaine de centimètres de profondeur au fond duquel elle se tapit. L'entrée du terrier est entourée d'une sorte de margelle faite de terre, de brins de paille et d'herbe cimentés par de la soie. La nuit venue, notre araignée-loup s'aventure parfois à quelques distances, jamais très loin. Elle préfère la chasse à l'affût, souvent au débouché de son terrier, d'où elle pointe ses 8 yeux. Difficile d'échapper à sa vigilance et malheur à l'insecte qui aura eu la mauvaise idée de prendre la margelle pour un petit perchoir. D'une vivacité surprenante, elle bondit et tue sa proie en une fraction de seconde. Sa technique de mise à mort est redoutable, ce qui lui permet de s'attaquer à des guêpes, des bourdons et des sauterelles plus grosses qu'elle. Elle plante ses chélicères, les crochets venimeux des araignées, à la naissance du cou de ses victimes. Le venin injecté à proximité des centres nerveux provoque une mort instantanée. Quand l'opération est réussie, la tarentule dévore sa proie, ne laissant que des téguments indigestes. Mais attention, si notre tarentule manque de précision et mord par exemple une guêpe à l'abdomen, la mort ne surviendra pas avant une dizaine de minutes. Laps de temps suffisant pour que la guêpe arme son dard contre la tarentule qui périra peu après. Match nul meurtrier en quelque sorte. Pour notre agriculteur dépouille, le seul remède connu était de se lancer dans une danse effrénée au son d'une musique entraînante. Certaines musiques étaient d'ailleurs réputées, c'est sans doute de cette thérapeutique qu'est née la tarentelle. En réalité, l'issue fatale est une énorme exagération des effets de la morsure de la tarentule qui ne provoque chez l'homme qu'une douleur modérée. De quoi penser que le tarentisme était un alibi commode. En effet, il fallait bien danser, et si possible longtemps et pas seul pour se soigner. Un excellent prétexte pour échapper aux interdits religieux qui stigmatisaient ce genre de pratique, tremplin vers le péché de luxure. Pourtant, il pourrait y avoir une part de vérité dans le tarentisme. Il serait causé par une autre araignée, la veuve noire méditerranéenne, dont le venin est bien plus virulent. Alors n'accusons plus à tort la tarentule et retournons danser.
Vous écoutez Les Petits Matins de France Culture. Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Réveil culturel. C'est tous les jours de la semaine, tôt à la radio, dans les petits matins de France Culture, ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast de l'émission, disponible tous les deux sur l'application de Radio France. Vin Schluss est l'invité du Réveil culturel aujourd'hui, à l'occasion de son exposition « Interférence rétroactive » jusqu'au 31 octobre à la galerie Georges Philippe et Nathalie Valois, rue de Seine, dans le 6e arrondissement à Paris. On parlera d'art et de cinéma, car dans cette exposition, l'artiste présente des dessins, affiches, maquettes, décors de films, où il se projette dans les univers des films qui ont marqué son enfance et son adolescence. Bonjour Vin Schluss.
Bonjour.
Le Réveil culturel. Mardi, Expo.
Artiste, auteur de bande dessinée, réalisateur, Vincent Parono est votre vrai nom, Vin Schluss. Allez, faisons comme si c'était notre première interview. Pourquoi Vin Schluss ?
Alors, Vin Schluss, ça vient du fanzina, enfin, à l'époque. J'étais très jeune et on m'a baptisé comme... Enfin, ça venait de fan de musique post-industrielle. Bon, je allais très vite, vraiment très vite. Et donc, il m'avait baptisé Anwar Vin Schluss. Et mes amis, pour se foutre de moi, on continue de m'appeler comme ça et c'est resté. Donc, je suis absolument pas responsable de ce nom.
Vous êtes un auteur de bande dessinée, vous voulez de le préciser. Vous êtes arrivé par l'école du fanzina, fanzina de contre-culture graphique assumée. Vous publiez d'abord dans le fanzine Les Aventures de Miguel en 95, avant d'arriver à la revue Ferra et un peu plus tard Les Requins Marteaux. En 2008, votre album Pinocchio obtient le Fauve d'Or du meilleur album de bande dessinée au Festival d'Angoulême. Un an auparavant, c'était pour le cinéma, à Cannes, où Persepolis, que vous avez réalisé avec son auteur Marjane Satrapi, obtenait le prix du jury. Et en 2016, vous recevez la pépite d'or du salon du livre jeunesse de Montreuil pour Dans la forêt sombre et mystérieuse, un album de bande dessinée pour la jeunesse. Alors on ne pourra pas dire que vous n'avez rien fait de vos 50 premières années de votre vie, on peut pas le dire. Mais si je résume votre parcours en insistant sur les distinctions, c'est bien pour rappeler que vous passez très facilement du dessin à la bande dessinée, de la bande dessinée au film d'animation, et que cela, on le voit bien dans l'exposition « Interférence rétroactive ». Mais comme elle est sur France Culture, peut-être que je vais expliquer ce que ça veut dire, interférence rétroactive. Parce que ça veut dire quelque chose. C'est un effet décrit par des psychologues depuis les années 30, dans le cadre d'ailleurs d'études expérimentales de la mémoire. Et l'idée générale est qu'un souvenir stocké en mémoire peut être perturbé par d'autres souvenirs.
Oui, c'est ça. J'aime bien cette idée de... Bon, enfin, moi aussi, j'avais lu quelque chose, enfin, quelques trucs sur le sujet. Et donc, mon travail, hein, de manière générale, est constitué d'influences que je truque ou que je bricole en permanence. Et j'aime bien cette idée de trafiquer ou de mentir avec les outils que j'ai. Donc, voilà. Donc, pour aller vite, je prends un film que j'ai aimé et j'en fabrique un autre. C'est ce que j'ai fait avec les affiches. J'ai pris des films que j'avais beaucoup aimés. Je fabrique un nouveau souvenir à base de trucs plus contemporains, bien sûr, tout en gardant l'aspect primitif et la joie primitive que j'avais eu à l'époque quand j'étais enfant.
Enfant ou adolescent. D'ailleurs, voilà. L'enfance et l'adolescence sont au centre de votre travail artistique. Ça revient souvent. C'est...
Oui, ben je pense que c'est peut-être proche de la névrose, mais c'est la solution que j'ai trouvée pour avancer. Comme je disais, j'ai besoin d'une joie primitive et donc je suis pas du tout nostalgique, mais je vais piocher dans ces moments qui sont encore intacts de d'énergie et aussi de joie, comme je dis, enfin ce que j'ai pu ressentir, parce que ce que je décris est assez sombre.
Oui, parce que vous dites joie primitive, mais ce sont d'abord vos premiers traumatismes.
Oui, mais des traumatismes joyeux, quoi qu'il en soit. Puisque même si j'ai fait une affiche qui enfin une référence à Blue Velvet, c'est un film qui m'a traumatisé sans aucun doute, mais j'ai aussi pris conscience de ce qu'était un auteur en même temps, parce que j'allais voir des films, j'allais au cinéma comme un dilettante, j'allais voir n'importe quoi pour aller vite tant que c'était violent et voilà, et je tombe sur Blue Velvet conseillé à l'époque par Mad Movies, qui était un excellent magazine, et voilà, sauf que je suis ressorti, j'étais plus le même. Parce que j'ai pas tout compris, évidemment, mais j'ai juste vu un auteur ou un artiste au travail, avec tous les codes d'un film de genre, un thriller. Sauf que, voilà, c'était David Lynch. Donc je suis ressorti avec de la vase dans la tête.
David Lynch, des films qu'on a vus, des films aussi de genre, beaucoup de séries B. Mais il y a aussi dans votre exposition, interférences rétroactives, des films que soit on n'a pas vus, soit qui nous ont échappé, soit que vous avez complètement imaginé.
Oui, c'est voilà, d'où interférence rétroactive. J'ai fait une affiche avec Divine, donc le fameux drag queen.
Des films de John Waters,
oui. Oui, bon, qui était pour nous une icône punk avant d'être une icône, drag queen, parce qu'elle incarnait, il incarnait la liberté, l'anticonformisme. Voilà, donc nous, en tant que jeunes punks à l'époque, on regardait fasciné Divine, donc j'ai voulu l'intégrer à une affiche que j'ai mixée avec une autre affiche assez connue des années 50, la femme de, je sais plus, 50 pieds, je pense. Et voilà, sauf que c'est une drag queen géante qui est en train de détruire la ville. Bon, il y a une joie et une jouissance à faire ce genre de truc, à casser des jouets. Enfin, j'ai toujours aimé mettre le feu partout, donc c'est là dans la longue lignée de ce que je fais, ça résonne assez bien.
Interférence rétroactive, c'est donc jusqu'au 31 octobre à la galerie Georges Philippe et Nathalie Valois, une des galeries les plus accessibles, disons, de la rue de Seine, dans le 6e arrondissement à Paris. Qu'est-ce que ça représente pour un artiste comme vous qui est plutôt dans la bande dessinée ou qui est plutôt dans la contre-culture graphique ou même dans le cinéma d'animation, le moment galerie-exposition?
Pour être honnête, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années que je travaille avec eux. Donc j'en suis à ma troisième expo, je pense. Et voilà. Après, Georges Philippe et Nathalie Valois sont venus me chercher. Je crois que c'était à la sortie de Pinocchio. Parce que conseillé par Gilles Barbier, ce qu'il faut préciser. Et voilà. Donc moi, j'ai pas de fascination particulière pour les galeries. Mais il n'empêche que... Il me donnait la possibilité déjà de me détacher de la bande dessinée, de faire des illustrations ou du volume, puisque c'était le deal de départ. Et voilà. Et après, comme ils font bien leur travail, c'est quand même des amoureux de l'art, mais pas juste l'art contemporain, l'art de manière générale, ils m'accompagnent sereinement et comment dire, avec élégance.
Est-ce que vous travaillez spécialement pour les galeries ou est-ce que vous exposez dans des galeries des travaux que vous avez faits pour la bande dessinée, pour le cinéma?
Alors, dans les galeries, j'expose dans cette galerie, mm-hmm. précisément. Et après, généralement, je conçois une exposition pour la galerie. Voilà. J'aime bien avoir un projet. Donc, généralement, il y a quand même à 80%, j'ai conçu toute l'exposition dans ce but-là, quoi.
C'est-à-dire en tenant compte de l'espace
et... De l'espace et puis du temps et de l'idée.
Le réveil culturel, Tufik Hakem sur France Culture.
Ah, little lad, you're staring at my finger. Would you like me to tell you the little story of right hand, left hand? The story of good and evil? H-A-T-E. It was with this left hand that old brother Cain struck the blow that laid his brother low. L-O-V-E. You see these fingers, dear hearts, these fingers has veins that run straight to the soul of man. The right hand, friends, the hand of love. Now watch and I'll show you the story of life. These fingers, dear hearts, is always a warring and a tugging, one against the other.
Voilà un extrait du film La nuit du chasseur, un film qui vous a marqué, Winchlus, puisqu'il y a au moins deux dessins qui renvoie à ce film dans votre exposition Interférence rétroactive.
Sur La nuit du chasseur, je pense que j'en ai bien une centaine dans tout mon boulot, que ça soit au niveau des ambiances de déco, de poésie ou il y a tellement de choses dans ce film qui est un de mes films préférés. Donc depuis 20 ans, je crois que je mets des références à ce film dans tous mes projets.
Et comment après, vous l'avez découvert ce film? Vous étiez enfant ou...
Alors je l'ai découvert au Ciné Club, donc une émission qui paraît très lointaine maintenant, parce que j'avais pas le droit de regarder la télé après 9h. Donc je me levais en douce et je regardais...
Donc c'est jeune adolescent que vous découvrez ce film?
Ah mais enfant même.
Même enfant, ouais?
Oui. Et je regardais le Ciné Club, donc il y avait souvent des films étrangers qui étaient sous-titrés, donc j'avais pas besoin de mettre le son pour pas réveiller mes parents. Et c'est là que je l'ai découvert, donc sans le son. Et donc, ça, de toute façon, c'est un film impressionnant. Enfin, visuellement, il est déjà extrêmement fort, quoi. Donc, voilà. Donc, j'ai découvert avec le son plus tard, avec la voix de Robert Mitchum qu'on vient d'entendre. Mais voilà. Et ce film, j'aime pour plein de raisons. Son histoire aussi, puisque c'est un film donc qui est classé maintenant parmi les chefs-d'œuvre, mais qui à sa sortie a fait un bide monumental. Charlton, donc le réalisateur, a jamais pu refaire un film derrière. Et voilà, plus le fait que ce soit un thriller, que ce soit poétique, que ce soit violent, que ce soit tendre. Enfin, il y a à peu près tout dans ce film. Et d'atteindre une telle harmonie, c'est vraiment compliqué.
Alors, comment vous rendez compte de ce film à travers ces deux dessins, par exemple, qui représentent la fameuse scène de Robert Mitchum montrant ses tatouages, ses doigts, ses mains? Love, hate.
Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, tout est dit sur la personnalité du pasteur psychopathe. Mais en plus, il y a une culture du tatouage, love and hate dans la culture rock'n'roll. Enfin, c'était déjà présent, à tout niveau. Et j'aime bien les idées simples. Et surtout, oui, je me suis souvent représenté en Robert Mitchum. Mais comme j'écrivais amour et haine, donc une lettre en plus, je me rajoutais un doigt. Donc dans toutes les j'ai fait donc cette affiche de La nuit du chasseur version française, donc il y a Love and Hate qui est devenu Amour et haine et il y a un doigt en plus. Mais comme c'est assez réaliste, on s'en rend pas compte tout de suite. Et j'aime bien les trucs mutants comme ça et il y a une sorte de gêne mais qui est pas lisible.
Effectivement, 6 doigts. Et ça veut dire quelque chose au fait. Ce sixième doigt comme un sixième sens.
Oui, c'est j'ai fait aussi des pièces en volume avec amour écrit avec un sixième doigt. C'est pour moi l'amour est un sentiment aussi mutant et extrêmement trouble. C'est-à-dire que c'est tout et son contraire. Donc voilà. Donc pour moi l'aspect mutant, comme je dis, c'est que c'est quelque chose qui est présent mais qu'on ne voit pas tout de suite. Voilà. Donc je joue aussi sur cette ambiguïté quoi. Et puis il y a aussi un jeu stupide hein, de rajouter un doigt et que personne s'en rend compte.
Voilà. Comme les cinq différences. Et puis, cette manière de revisiter tous les contes de votre enfance, je suppose, après Pinocchio en bande dessinée, là on voit une pièce dans votre exposition qui renvoie la petite fille aux allumettes, c'est une manière aussi d'aller chercher vos premières frayeurs d'enfant et de les questionner.
Oui, et puis moi j'ai besoin d'un écrin ou en tout cas de quelque chose pour faire pousser mes idées assez sombres, comme je disais. Et il est clair que moi, gamin, j'avais des vinyles, enfin des 45 tours, avec les histoires racontées de Barbe Bleue ou des voilà que j'écoutais. Enfin, pour ça me fascinait d'écouter ça avec mon tourne-disque et de remettre et de remettre et de remettre. Et après, le conte, il a une valeur, c'est que ça reste, comme je travaille beaucoup sur la culture populaire, ça me permet d'avoir une assise et de parler d'autre chose aussi. Ben, pour être clair, c'est ce que j'ai fait dans Pinocchio. Je voulais parler de la mondialisation. J'ai pris Pinocchio, le mythe de Pinocchio, parce que ça stabilise, en fait, l'attention du lecteur. Et après, ça me permet, moi, de raconter ce que j'ai envie de raconter.
A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say,
now it's dark.
Found the year?
One name that keeps coming up is this woman Singer.
The first thing I need is to get into her apartment.
I don't know if you're a detective or a pervert.
Do you like the way I feel?
But I still can see blue velvet.
Voilà un film qui vous a beaucoup marqué, Winchlus, et très présent dans votre exposition Interférence rétroactive, puisque vous reprenez carrément l'affiche de Blue Velvet.
Oui, là j'ai juste pris des éléments du film. Avec le travail de Lynch, de toute façon, il n'y a pas besoin de broder beaucoup. Et voilà, il y a des séquences, enfin des plans qui m'ont marqué, telle l'oreille au début du film qui est dans le gazon avec les petites les roses, la petite barrière blanche.
Et alors comment vous vous projetez dans ce film? Parce que c'est ça l'idée de votre exposition, c'est comment vous, votre vie va se projeter dans ces œuvres d'art, bah, dans ces films.
Ben bah là, en l'occurrence, c'est plutôt David Lynch qui s'est projeté sur moi, quoi. Enfin pour. Et donc, comme je dis, c'est peut-être la seule affiche de bon élève que j'ai fait, parce qu'en fait, il y a des choses qu'on comprend des années après. Il y a des thèmes ou des choses qui reviennent dans mon boulot, et en fait, au fur et à mesure, certainement comme un vieux con, je me rends compte qu'il y a ce que j'appelle des névroses, mais en tout cas des choses qui reviennent de manière incessante. Et c'est pas exactement le Blue Velvet, mais en tout cas il y a un truc une graine qui se place dans la cervelle et qui continue de se développer de manière incessante. Pinocchio, c'est le film que j'ai vu gamin, le premier film que j'ai vu au cinéma. On n'allait pas au cinéma dans ma famille, donc c'est un truc qui m'a ultra marqué.
Parce que grand écran,
j'étais effrayé. La Baleine, c'est un film quand même très impressionnant. Enfin, le dessin animé de Walt Disney. Blue Velvet, il y a un truc pareil. Il y a La Nuit du Chasseur, j'en parlais tout à l'heure. Mais Blue Velvet, il y a une ambiance qui me fascine parce que David Lynch a ce pouvoir d'installer quelque chose qui ressemblerait à un thriller, mais il dévie en permanence et en fait, il arrive dans des sortes de méandres de manteaux ou dans une sorte de truc méta à la fin qui nous perd complètement. On ne sait plus ce qu'on était en train de regarder avec des personnages hallucinés et hallucinants. Et surtout, il a un culte de l'innocence qui est assez assez beau. C'est que les innocents peuvent être idiots, mais il n'y a jamais de condescendance. Les personnages naïfs sont hyper précieux dans les films de Lynch, alors qu'ils sont vraiment en contradiction avec avec des méchants dignes, enfin des vrais méchants.
Et vous revivez les mêmes réactions, émotions que vous avez eues quand vous avez vu pour la première fois, jeune adolescent, ce film aujourd'hui, par exemple, Winchlus, pour parler de Blue Velvet.
Je dirais que non. Et comme c'est ancré en moi de manière primitive, j'ai encore ce sentiment. Mais par contre, il y a un truc qui est certain, c'est qu'en tant que technicien, je regarde le travail d'un réalisateur, et voilà. Et il y a un autre plaisir, c'est de voir quelqu'un de voir un artiste ou un auteur qui fait bien son travail. Donc j'ai un regard technique aussi maintenant. On parlait de La Nuit du Chasseur, c'est pareil. Je regarde les plans et je me dis comment c'est possible de faire des plans pareils. Blue Velvet, pour terminer, ce qui est drôle, c'est que donc il y a Isabella Rossellini et 20 ans après, je tourne avec elle. Je fais Poulet aux prunes avec Marjane Satrapi. Donc je me retrouve avec Isabella Rossellini qui tournait dans le film. Je me dis au moins la vie a un intérêt, c'est que au niveau de l'ironie, c'est parfait quoi.
Et c'est ce que vous développez comme idée dans cette exposition, savoir que quand la fiction et la réalité semblent fusionner, vous avez même inventé un mot pour ça, c'est réaliction ou réaliction?
Réaliction, oui. Ouais. Oui, ben là oui, c'était. Je voulais faire mon poseur, j'imagine. Mais en tout cas, il y a un truc qui est certain, c'est que je développe. Mais je crois que c'était pendant le confinement. Je regarde le monde et comme je m'intéresse à l'histoire. Je me dis bon, on vient quand même d'une philosophie chrétienne ou judéo-chrétienne. L'Occident, les bases de l'Occident sont fabriquées sur cette pensée-là. Et je suis le fruit et je suis l'enfant de toute cette pensée, quoi qu'il en soit, même si j'essaie de m'en détacher. Mais la base même de cette pensée ou philosophie judéo-chrétienne, c'est quand même la fin est proche.
L'Apocalypse est là.
Et donc Jésus attendait la fin qui était genre c'est dans deux jours, c'est jamais arrivé. Mais en même temps, on a l'impression qu'on sait pertinemment ce qu'il faut pas faire et que voilà. Je disais, il y a les films par exemple qui annoncent une pandémie ou une catastrophe nucléaire et tout ça. Mais on dirait plutôt que l'humain fait tout pour. C'est aussi proche de la prophétie autoréalisatrice. L'humain, on dirait que l'humain passe son temps à essayer de réaliser cette prophétie que la fin est proche, donc de tout détruire.
Ou peut-être de l'imaginer pour qu'elle n'advienne pas.
Alors moi, en ce moment, c'est pas ce que je vois. Hein.
C'est-à-dire?
Je vois plutôt une sorte de précipitation vers le chaos. On vit dans un système ultra-libéral qui est quand même, c'est un système qui crée juste, de la misère, de la violence. Au bout de 50 ans, on a compris quand même qu'il y avait un petit problème systémique. Mais quoi qu'il en soit, on continue d'avancer vers une sorte de destruction programmée et écrite, comme si c'était une volonté personnelle d'aller vers la fin, quoi. Donc voilà. Donc c'est ce qui me fascine, c'est ça, c'est cette ambiance du moment.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
L'exposition Interférence rétroactive de Winchlus est à visiter à la galerie Georges, Philippe et Nathalie Valois à Paris, dans le 6e arrondissement. C'est jusqu'au 31 octobre. Merci beaucoup Winchlus d'être passé ce matin.
Merci.
On se retrouve demain à la même heure. Bonne matinée sur France Culture.
Culture, l'esprit d'ouverture.
Vieillir pour le meilleur sur les chemins de la philosophie, Adèle Vendrette.
On commence avec le cardiologue Philippe Abbastiado pour une exploration du cœur des vieux. On continue avec la philosophe Manon Garça qui viendra se demander si Simone de Beauvoir aurait bien vieilli. L'écrivain Régis Geoffrey viendra nous dire pourquoi il adore les seniors. Et enfin, Marion Masse viendra vous parler de l'élixir de longue vie d'Honoré de Balzac.
Les chemins de la philosophie, cette semaine à 10h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Tu es étudiant ? Rejoins le jury du prix du roman des étudiants France Culture Télérama.
Découvre 5 romans.
Rencontre les auteurs partout en France.
Et élis ton coup de cœur.
Pour t'inscrire, envoie la critique du dernier roman que tu as lu avant le 7 octobre.
Toutes les infos sur franceculture.fr et télérama.fr.
Avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Il est accusé de viol présumé et de financements étrangers. Vaste procès pour le journaliste Omar Radi au Maroc aujourd'hui. Les associations dénoncent une justice aux mains du régime. Notre correspondant à Casablanca a rencontré le père d'Omar Radi, vous l'entendrez. Nous irons ensuite en Irlande où les pubs rouvrent 6 mois après le début de la pandémie de Covid-19. Pendant ce temps, en Angleterre, les bars s'apprêtent à fermer. Une pandémie synonyme de trous financiers pour les alliances françaises dans le monde. Faute d'élèves et de moyens, certaines associations ont déjà dû fermer. Et puis, quelle proposition du MEDEF pour la formation des futurs chômeurs en France ? Face à la crise économique, le patronat réclame 400 millions d'euros destinés à la reconversion. Explication en fin de journal. Nous commençons donc ce journal par un procès au Maroc, procès du journaliste et militant Omar Radi. Emprisonné depuis le 29 juillet, il doit comparaître aujourd'hui devant la cour d'appel de Casablanca. La justice marocaine le poursuit pour atteinte à la sûreté extérieure et intelligence avec une puissance étrangère, mais aussi propagande de nature à ébranler la fidélité des citoyens envers l'État, et puis pour viol présumé. L'ONG Human Rights Watch parle d'accumulation record de charges et de poursuite apparemment truquée contre les journalistes critiques au Maroc. Notre correspondant sur place, Sédic Ralfi, nous relate cette affaire.
Officiellement, Omar Radi est accusé d'espionnage. Embauché par des cabinets d'intelligence économique, il était en charge de vérifier la réputation des futurs partenaires marocains d'hommes d'affaires britanniques souhaitant investir au royaume. Mais pour le père d'Omar Radi, il n'y a aucun doute, son fils est victime d'une cabale destinée à faire taire le journaliste qui dérange.
Elle était pistée, suivie, photographiée malgré lui.
Au Maroc, officiellement, il n'y a plus de détenus d'opinion depuis les années de plomb de Hassan II. Medris Radi, le père d'Omar, est formel. Ce sont bien les positions de son fils qui ont conduit le journaliste derrière les barreaux.
Omar est un prisonnier d'opinion car ce n'est pas son premier procès, ce n'est pas la première fois. Il a été condamné à 4 mois de prison suite à un tweet critiquant le verdict contre les prisonniers du RIF.
Mais le délit d'opinion n'est pas à l'ordre du jour de l'audience d'aujourd'hui. Omar Radi est poursuivi pour le viol présumé d'une collègue. Lui affirme que la relation était consentie. Les défenseurs d'Omar Radi et son père trouvent le timing troublant et parlent d'un coup monté.
Après 11 longues interrogatoires, ils n'ont rien trouvé, mais ils ont sorti une autre accusation de l'attentat à la pudeur et viol.
Le journaliste est poursuivi en état d'arrestation. Il est depuis 2 mois enfermé dans la prison surpeuplée de Casablanca, mais lui a été mis à l'isolement.
C'était Sédic Ralfi à Casablanca pour France Culture. Les pubs anglais vont fermer à partir de 22h ce soir. Boris Johnson doit l'annoncer aujourd'hui lors d'une allocution à la télévision. Grosse journée d'ailleurs pour le Premier ministre britannique qui va enchaîner les réunions de crise. Il ne parvient pas à endiguer l'épidémie de Covid-19 dans le Royaume et il veut tout tenter pour éviter d'avoir recours à un confinement général, ce qui serait selon ses propres mots un désastre économique. Pas de pubs en Angleterre, mais il rouvre en Irlande après 6 mois de fermeture et quelques semaines avec l'obligation de commander à manger sur place pour pouvoir s'asseoir et boire. Emeline Vin en Irlande s'est rendue dans un pub de campagne au nord-ouest de Dublin, au cœur d'un village.
Les premières pintes depuis la fermeture il y a 6 mois.
Je suis content et un peu stressé.
Le Arnans, toit de chaume, intérieur en bois, est tenu par John Arnan.
Il y a l'excitation de revenir ici, de recevoir les gens après le travail et qu'ils repartent tard. Ce qui est casse-pied, c'est qu'on a dû retirer les tabourets près du comptoir. C'est dommage car tout le monde aime s'asseoir au comptoir.
Enfoncé dans le canapé en velours vert, Patch, le garagiste du village, fait partie des premiers revenus.
Ça nous a manqué à tous. Pouvoir boire des coups, voir des copains, discuter. On fait ça 2-3 fois par semaine.
Certains pubs ont rouvert en tant que restaurant. Ça ne vaut pas un vrai pub pour Eamon.
J'ai dû y aller deux ou trois fois en commandant du ragoût. Mais je préfère largement prendre une bière en rentrant chez moi, puis rentrer et prendre mon dîner avec ma famille. Aujourd'hui, je vois des gens que je n'ai pas vus depuis des mois.
Mais la joie des retrouvailles n'efface pas les inquiétudes du jeune tenancier John Arnan.
J'ai peur qu'on ait un cluster ici. Si les clients l'attrapent, ce sera de notre faute. Et puis, j'espère qu'on pourra rester ouvert. Les deux premières semaines, ça va aller. Mais c'est après qu'on saura si on survit ou pas.
Il espère pouvoir bientôt organiser à nouveau des concerts de musique traditionnelle. Là, dit-il, ce sera le vrai retour à la normale.
C'était un reportage d'Emeline Vin. L'Italie va imposer à tous les voyageurs en provenance de plusieurs régions françaises un test négatif au Covid-19 avant l'entrée sur son territoire. Sont concernés l'Île-de-France, les Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Corse, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Les Français à travers le monde et les alliances françaises qui souffrent. Le réseau plus que centenaire est aujourd'hui en danger. Les 600 alliances françaises dans 131 pays proposent des événements culturels, mais surtout des cours de français grâce à leurs 20 000 salariés. Or, ces associations ont un statut local et leurs ressources sont en chute face à la baisse du nombre d'élèves à cause notamment du Covid-19. Thibault Lefebvre en a contacté certaines.
Melbourne est toujours strictement confinée et ça fait plus de 6 mois que ça dure. Johanna Durand dirige depuis 1 an la plus importante alliance française australienne avec 20 enseignants, un peu plus d'1,5 million d'euros de chiffre d'affaires, mais environ 30% de perte de ressources depuis le début de l'année.
La vulnérabilité des alliances françaises est exacerbée par cette crise. Donc on a dû faire un crédit d'1,5 million de dollars. La crise, c'est aussi les frontières qui sont fermées. On n'a pas de profs qui peuvent rentrer sur le territoire australien, donc on ne peut pas avoir de croissance. On n'aura pas un deuxième crédit et on n'a pas droit à l'erreur.
Plus grave, la situation de la trentaine d'alliances françaises réparties, elles, sur le territoire national. Marc Cerdan est le secrétaire général de la Fondation des Alliances françaises.
Les Alliances françaises de France dépendent des étudiants étrangers. Évidemment, les étudiants sont beaucoup moins nombreux à venir en France. Et donc, on a des alliances françaises de France qui sont obligées, évidemment, de faire des efforts de gestion avec parfois des plans de licenciement, des réductions de dépenses. C'est la difficulté principale que rencontrent les alliances de France.
Avec, depuis mars dernier, déjà 2 fermetures, les alliances françaises de Grasse et de Dijon, mais aussi d'importantes procédures de licenciement en cours, à Lyon notamment, qui a déjà perdu près de 2/3 de ses effectifs.
Et ces 800 alliances françaises vont donc se rassembler la semaine prochaine. Elles veulent lancer un plan Marshall sur l'offre numérique. Les syndicats de Bridgestone à Béthune dans le Pas-de-Calais conservent un petit espoir quant à un maintien de l'activité sur ce site qui emploie 863 salariés. Il est, je vous le rappelle, promis à la fermeture par la direction japonaise de Bridgestone, mais le gouvernement français demande une contre-expertise. Une deuxième réunion se tiendra d'ici 3 semaines au plus tard sur place. Et pour reclasser les salariés de Bridgestone qui perdraient leur emploi ou pour reclasser tous ceux qui devront subir un licenciement dans les mois qui viennent en France, le MEDEF a une solution. Il réclame 400 millions d'euros pour la reconversion de ses salariés. Le patronat a fait parvenir au ministère du Travail 20 propositions portant notamment sur la formation professionnelle. Catherine Pétillon.
Le MEDEF commence ainsi à avancer ses arguments à quelques jours du début des concertations avec le ministère du Travail. Et ses propositions s'articulent autour d'un axe. Pour répondre à l'urgence et à la crise sociale qui vient, il faut aider les salariés à se reconvertir vers les secteurs qui embaucheront. Et ce soutien doit passer par le renforcement du nouveau compte personnel de formation transition professionnelle, le CPF-TP. Ce dernier, estime le MEDEF, a un budget insuffisant au regard des besoins qui s'annoncent. Le patronat réclame 400 millions d'euros supplémentaires. Voilà une proposition qui devrait générer des réserves de toutes parts. Du côté du ministère du Travail, d'abord peu enclin à remettre de l'argent sur la table et qui rappelle que France Compétences, nouvel organisme en charge de toute la formation, a déjà prévu 500 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 100 millions du plan de relance. Les syndicats de salariés, eux, commencent par souligner une certaine ironie de la proposition patronale. Ils rappellent que le financement des formations longue durée a été sauvé de hautes luttes contre le patronat, notamment à l'occasion de la réforme de la formation professionnelle, c'était en 2018. Reste que tous les partenaires sociaux pourraient s'accorder sur la nécessité de de soutenir les reconversions. Mais les modalités, c'est sûr, ne feront pas consensus. Les syndicats le disent d'ores et déjà, ils sont contre l'idée du MEDEF de prendre de l'argent sur les réserves du CPF destinées à financer les formations courtes des salariés. Pour en discuter, le MEDEF a invité les syndicats à se réunir avec eux vendredi prochain.
Catherine Pétillon. Le parti présidentiel en difficulté. C'est l'aveu même hier soir du patron de La République En Marche, Stanislas Guérini. Il présidait en fait un bureau exécutif où la démission de son bras droit, Pierre Person, a été entérinée. À cette occasion, la députée LREM Aurore Berger, tenante de la branche droite, a annoncé, elle, sa démission de l'instance décisionnaire chez La République En Marche. Les averses remontent peu à peu vers le nord, encore bien présentes ce matin au sud de la Loire avec quelques orages près de la Méditerranée. Ces pluies vont toucher le centre-Val de Loire à la mi-journée. Plus au nord, en attendant, le soleil se fera encore une place sous des températures fraîches pour ce premier jour d'automne. Ce matin, il fait 12 degrés à Lille, 14 à Paris, 16 à Brest et Strasbourg, 18 degrés à Lyon et Bordeaux, 20 degrés à Marseille. 6h40, vous écoutez France Culture, c'est l'heure du journal des idées. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Jacques, vous revenez ce matin sur une pétition qui a reçu le soutien de la ministre de la Culture. Elle demande l'entrée au Panthéon de Rimbaud et de Verlaine.
Voilà, elle suscite un vif débat, je vous fais grâce des épisodes précédents. La dernière prise de position est due à Luc Levaillant dans Libération et elle résume le petit feuilleton. Il y a ceux qui clament « Entre ici, Arthur Rimbaud, avec ton splendide cortège de mots fulminants et de bravades adolescentes, de ruptures théoriques et de baroudes poétiques. » Et il y a ceux qui crient à la mascarade. Rimbaud, qui taguait des merdes à Dieu sur les bancs publics, n'avait pas une petite gueule bien sympathique d'amoureux bécoteur de Légion d'honneur. Sans vouloir trancher ce débat si français, Luc Levaillant relève l'impossible consentement du héros mort. Il rappelle que si un Nobel se refuse, et Sartre s'y employa quand Camus fit le voyage à Stockholm, c'est en revanche la famille de l'auteur de l'homme révolté qui s'opposa à ce que l'accident de la route sorte de son tombeau de lourd marin pour, tel Sisyphe, remonter son rocher jusqu'en haut de la rue Soufflot. Et aux côtés des nombreux porteurs de sabres des années Napoléon, la survenue des Rimbaud-Verlaine en ce lieu de mémoire serait le signe que l'héroïsation esthétique est devenue la guerre par d'autres moyens. Une guerre soft, comme on parle de soft power. Mais la culture, même sous son angle politique, ressortit-elle au seul domaine de l'influence? Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication de 2012 à 2014, estime dans la revue Esprit qu'on ne peut y réduire la politique culturelle car il y manque une dimension citoyenne, faciliter, encourager l'accès de toutes et tous au patrimoine et à la création. François Léotard, à la culture de 1986 à 88 avant de passer à la défense, s'insurgeait déjà contre la conception monarchique du ministère taillé sur mesure par De Gaulle pour Malraux, reléguant l'éducation populaire à celui de la jeunesse et des sports et ramenant toute politique culturelle à, je cite, « des relations publiques du prince ». La France est un des premiers pays au monde en termes de fréquentation des salles de cinéma, des musées, souligne Aurélie Filippetti, et d'évoquer le centre Pompidou à Metz comme un exemple de la réussite d'une politique décentralisée, soucieuse d'aller chercher les citoyens plutôt qu'attendre qu'ils viennent à nous. Cela dit, à force de pousser les grands musées à avoir des ressources propres pour diminuer leurs subventions, les directeurs d'établissement sont tentés d'augmenter le prix de leurs billets d'entrée. Cette livraison de la revue Esprit consacre donc un dossier à la culture au tournant, un tournant serré. Le ministère de la Culture estime à près de 25% du chiffre d'affaires la perte enregistrée par le secteur du fait de la crise sanitaire. Ce chiffre s'élève à 70% pour l'audiovisuel et le cinéma ou encore le spectacle vivant. Reste une ressource qui n'est pas seulement économique, la protestation. La revue Noto s'intéresse aux poèmes qui annoncent une révolution, aux dessins qui fait de la résistance, au livre portant la voix des oubliés, à tout ce qui dans la culture est de nature à émanciper la société, une autre forme de politique, citoyenne à la base, avec en exergue ces mots d'Antonin Artaud. Le plus urgent ne me paraît pas tant de défendre une culture dont l'existence n'a jamais sauvé un homme du souci de mieux vivre et d'avoir faim, que d'extraire de ce que l'on appelle la culture des idées dont la force vivante est identique à celle de la faim. Emmanuel Vallon, professeur de sociologie politique, revient sur l'histoire des politiques culturelles, longtemps confinées à l'administration du patrimoine, sauf l'inflexion imprimée à la Libération par Jean Zay à l'Éducation nationale. Dans la foulée, le ministère des Affaires culturelles est créé en 1959 pour Malraux, avec la mission de rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité, et d'abord de la France, au plus grand nombre possible de Français. La singularité de l'action française sera d'instaurer des mécanismes peu coûteux pour le contribuable, mais relativement vertueux pour l'écosystème, comme le 1% artistique mis en place dès 1951 ou la loi sur le prix unique du livre votée en 1981. Au chapitre de la circulation des œuvres, Maxime Georges Métraux et Léa Saint-Raymond retracent, archives à l'appui, l'incroyable odyssée de la chambre à Arles de Van Gogh, acquise par un industriel japonais entre les deux guerres, mais restée sous séquestre après la libération du fait que son possesseur était sujet d'une puissance ennemie, une histoire patrimoniale et diplomatique. Le reste de la collection Matsukata formera le socle du Musée national d'art occidental construit par Le Corbusier à Tokyo. Le plus étonnant dans cette histoire, c'est que cette chambre avait été représentée par l'artiste dans une référence affirmée à la peinture japonaise. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques.
Au sommaire des enjeux aujourd'hui, les talibans vont-ils s'immiscer dans la constitution afghane ?
Oui, on ne sait pas s'il faut parler de dialogue, de pourparlers de paix ou tout simplement de négociation, tant les objectifs et la vision de l'Afghanistan de demain diffèrent entre les talibans et le gouvernement afghan issu de la réélection l'année dernière du président Ashraf Ghani. Les deux parties sont donc en face à face depuis 8 jours à l'hôtel Sheraton de Doha, puisque c'est dans la capitale du Qatar que les talibans au pouvoir en Afghanistan, je le rappelle, de 1996 à 2001, ont leur bureau de représentation diplomatique. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est venu à l'ouverture de la rencontre pour se féliciter de discussions historiques, puis il a tourné les talons, comme doivent le faire du reste les 8600 soldats américains qui restent sur le terrain afghan. En négociation à Doha, un cessez-le-feu, le partage du pouvoir et donc la nature du régime. Bonjour Adan Bachko.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur associé à l'université Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'Afghanistan. Qui sont, Adan Bachko, les représentants de chacune des deux délégations talibanes et gouvernementales? Qu'est-ce que leur composition dit des intentions de chacun?
Alors, effectivement, on a deux délégations de 21 personnes qui sont très représentatives des deux mouvements. Les talibans ont une délégation qui est très homogène, un vrai bloc dirigé par la personne qui dirige le conseil judiciaire, c'est-à-dire le ministre taliban de la justice, quelque part, si vous voulez, le chef du système judiciaire taliban, ce qui est vraiment un très haut cadre au centre du mouvement avec une équipe très unie derrière lui. Et à l'inverse, du côté du régime, on a une équipe qui est divisée entre les proches du président et les proches de son Chief Executive Officer dans un régime qui est devenu dual, puisque au lieu d'un résultat électoral aux dernières élections, ce qu'on a eu, c'est une division du pouvoir entre les deux candidats. Et on le voit dans l'équipe où vous avez des gens venant de tous les partis politiques du pays qui sont très divisés, et avec une équipe très à l'inverse composite, des gens qui représentent le côté droit de l'homme et des gens qui représentent le côté parti djihadiste des années 80-90 du côté du régime. Et donc vraiment un contraste terrible entre une équipe très unique du côté des talibans et une équipe très composite du côté du gouvernement.
Adan Bachko, puisque l'un des enjeux de ces pourparlers entre talibans et gouvernement afghan, c'est le partage du pouvoir et la nature du régime, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce que vous pouvez voir de compatible entre la toute jeune République afghane, avec sa constitution qui date d'après la chute des talibans, et le système islamique que ceux-ci défendent?
Alors, ici, on a quelque chose de très paradoxal par rapport à ce qu'on imagine. C'est-à-dire que la constitution afghane ouvre des possibilités de compatibilité sur le fond, au sens où c'est une constitution qui est islamique, et surtout, si on nommait les quelques représentants des milieux associatifs et des droits de l'homme afghans, les représentants des partis islamistes du côté du gouvernement sont parfaitement d'accord pour une constitution qui suivrait la charia. Le vrai espace de désaccord, il est sur qui serait au pouvoir. Et là, on a une véritable incompatibilité. Les talibans veulent le pouvoir pour eux, ils veulent contrôler l'État. Et du côté du gouvernement, évidemment, il n'est pas question de donner les rênes aux talibans. L'espoir du côté du gouvernement aurait été de leur donner, de créer un partage du pouvoir où les talibans s'intégreraient au régime tel qu'il existe aujourd'hui, ce qui est pour les talibans absolument inacceptable. On voit donc que l'espace d'accord est inexistant sur le partage du pouvoir, et c'est ça le véritable enjeu.
Et sur le fond, la constitution afghane a quand même consacré des droits fondamentaux, que ce soit pour les femmes, pour les minorités religieuses. Qu'est-ce que ça peut advenir alors ?
Alors, dans les discussions informelles qui ont déjà eu lieu entre des membres du gouvernement et entre les grands partis politiques qui sont liés au régime, on a vu très bien que les personnes qui représentent ces partis-là sont parfaitement prêts à faire disparaître, à abandonner tout cet héritage de la Constitution qui a été en place à partir de 2002, ça n'est vraiment pas une pierre d'achoppement à la disparition du côté tous les articles qui sont sur la protection des minorités et des femmes représentent ici assez peu les difficultés dans les discussions, parce que les représentants du côté du gouvernement, pour la plupart, seraient prêts à lâcher énormément sur cette question-là. À l'inverse, les représentants de la société civile afghane sont non seulement minoritaires, mais ils sont surtout une représentation symbolique. Dans l'équipe, le gros de la représentation, ce sont en fait les anciens partis qui ont fait la guerre contre les soviétiques dans les années 80, qui sont des partis islamistes.
Alors, il y a 3 femmes parmi les 21 négociateurs du gouvernement, on verra ce qu'elles en disent. Quand se tenaient les négociations préalables entre les talibans et les États-Unis, cette fois, des discussions dont était exclu le gouvernement de Kaboul, le président Achafrani disait qu'il ne ferait pas de concessions aux talibans. Notamment, il était contre le fait d'anticiper la libération de certains prisonniers talibans. Pourquoi est-ce qu'il a finalement cédé sur ce plan, comme, à vous entendre, il est en train de céder sur beaucoup d'autres ?
Eh bien, parce qu'il n'a pas le choix, parce que sur le terrain, les talibans ont l'avantage, et surtout parce que les États-Unis ont tout cédé aux talibans. Les talibans ont négocié avec les États-Unis en n'acceptant aucun compromis, et on l'a vu pendant toute l'année où ont duré les négociations entre les États-Unis et les talibans. Les États-Unis ont cédé progressivement sur l'ensemble des points, sans aucune exception, qu'avaient posé les talibans. Ils ont donc donné un calendrier de retrait de leurs troupes, et on devrait se retrouver avec 4 500-5 000 soldats américains en novembre de cette année, ce qui voudrait dire un retrait américain à l'orée de l'année qui vient, et qui signifierait pour les talibans une position de force dans cette négociation, puisque la seule promesse qu'ils ont faite aux États-Unis, c'est de négocier, ça n'est pas d'avoir un accord. Et donc il est tout à fait possible que les États-Unis retirent leurs troupes et que l'année prochaine, les talibans n'arrivent pas à trouver un accord avec le gouvernement, que les combats continuent.
En attendant, le chef de la délégation afghane, aujourd'hui à Doha, s'adresse directement au département d'État américain pour demander aux États-Unis de cesser de soutenir les positions talibanes. Les États-Unis donc sont censés laisser les Afghans négocier entre eux, mais de fait, ils sont quand même encore un peu là, même aux côtés de l'armée afghane, en continuant à fournir du matériel.
Oui, tout à fait. Si les États-Unis cessent de soutenir militairement le régime, l'armée de Kaboul ne tiendrait pas le coup. On l'a vu à plusieurs reprises, lorsque des villes sont tombées aux mains des talibans, c'est l'intervention de l'armée américaine qui a permis que les troupes afghanes reprennent la ville. Et donc, si les États-Unis continuent dans la politique qu'ils ont engagée depuis 2 ans de se retirer en fait unilatéralement et de considérer que de se laver les mains des conséquences de leur politique depuis 2001 et de leur retrait récent, l'une des possibilités les plus probables serait que les talibans parviendraient à faire tomber le régime actuellement en place à Kaboul.
De la même façon, le régime de Kaboul exige dans les mots un cessez-le-feu humanitaire. Ça veut dire que rien dans ce que les États-Unis avaient au préalable négocié avec les talibans posait ce cessez-le-feu comme condition. D'ailleurs, les violences continuent. La semaine dernière encore, des dizaines de combattants de l'armée afghane et de talibans sont morts dans l'est du pays dans des combats violents, comme tous les jours en fait.
Tout à fait, c'est là où on voit la position de force des talibans dans cette négociation. Les États-Unis ont essayé d'obtenir un cessez-le-feu, les talibans ont dit non et les États-Unis ont cédé sur la question. Le gouvernement a mis comme préalable, il y a quelques mois, le cessez-le-feu de la part des talibans, et les talibans, à nouveau, n'ont pas accepté le cessez-le-feu en disant que le cessez-le-feu serait le résultat des négociations et non pas un préalable aux négociations. Et donc on le voit, les talibans ont la capacité d'obtenir leur inclusion dans des processus internationaux qui leur offrent une reconnaissance sur la scène internationale sans avoir à céder sur leur manière de mener la guerre en Afghanistan. On a ici un mouvement qui ne fait pas de compromis dans les négociations et qui progresse sur le plan militaire. Les négociations sont d'abord à leur avantage.
Et d'ailleurs, si le rapport de force reste militaire, aujourd'hui, en quelques mots, Adam Bachko, qu'est-ce que l'état des forces des talibans, quand on lit les récits, par exemple, des combats qui ont eu lieu la semaine dernière dans l'est du pays, on lit des talibans et des combattants talibans étrangers ont combattu l'armée afghane. Qui sont ces talibans étrangers qui viennent en renfort?
Alors, on se concentre énormément sur les étrangers. Il y a toujours eu des combattants étrangers qui ont soutenu les talibans, des gens généralement venus de l'ensemble du Moyen-Orient. On a eu des combattants étrangers qui ont été liés à Al-Qaïda depuis le début des talibans dans les années 90. Mais la force des talibans, elle vient d'abord de leurs combattants afghans. Hein, et c'est d'abord un mouvement qui a réussi à construire et à institutionnaliser des unités de combat de plus en plus fortes. Hein. Ils ont développé même des unités de commando. Ils ont récupéré sur les corps des soldats afghans tués du matériel amené par les États-Unis, des lunettes de vision nocturne, des véhicules. Ils ont gagné la capacité de mener des attaques simultanées dans plusieurs villes du pays. Et c'est d'abord comme ça qu'ils progressent, c'est-à-dire qu'ils ont construit un groupe armé de plus en plus capable sur le plan militaire. Hein, ce qu'on oublie souvent, c'est que les combats en Afghanistan ne se sont pas réduits depuis le retrait, mais bien intensifiés dans les années qui ont suivi le retrait de 2014. C'est juste avec très peu de correspondants étrangers en Afghanistan, on a de moins en moins de nouvelles de ce qui se passe en dehors de Kaboul, hein, alors qu'en fait, dans les campagnes, les combats sont extrêmement intenses.
Les combats sont extrêmement intenses, et à lire les différents reportages qui nous reviennent de ces campagnes, des Afghans plus ou moins, en attente, quoi, qui attendent de voir ce que vont donner ces négociations. Adam Bachko, en quelques mots, voilà, qu'est-ce qu'en pensent les Afghans de la perspective de voir les talibans revenir au pouvoir ?
Alors, ça dépend de quels Afghans. Dans les campagnes, les Afghans, dans la plupart des campagnes du pays, les Afghans ont déjà de facto les talibans au pouvoir. En fait, c'est dans les villes où les talibans ont en face d'eux une population qui ne veut pas d'eux au pouvoir. Le problème, c'est que le régime n'a pas réussi, en échange, lui, à créer un soutien populaire parmi cette population-là. Et donc, on a une population qui n'a personne à soutenir dans les villes et qui se retrouve à être spectatrice de combats et de négociations dont le résultat se jouera sans eux.
Merci beaucoup, Adam Bachko. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'université Panthéon-Sorbonne. Merci d'avoir été avec nous.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture et le Théâtre de la Ville s'associent et organisent un nouveau rendez-vous mensuel à l'espace Carnat à Paris. Combat, ce sont 10 week-ends d'émissions, de débats et de lectures en public autour de grands thèmes d'actualité. Premier rendez-vous les 26 et 27 septembre avec la conversation scientifique d'Étienne Klein. Des lectures réalisées par Pascal Deux autour du personnage de la sorcière, en écho aux sorcières de Salem, mise en scène par Emmanuel de Marcy-Motta, actuellement à l'affiche. Et le débat du dimanche d'Émilie Aubry et ses invités dans l'esprit public. Entrée gratuite sur réservation, théâtre-de-la-ville-paris.com. Plus d'infos, franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture. Bonjour Guillaume Erner.
Mais bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
Bon, votre humeur du jour en un quart d'heure aujourd'hui ou pas? Puisque tout doit tenir aujourd'hui en un quart d'heure.
Absolument, il y a une mode du quart d'heure. D'ailleurs hier on évoquait le quart d'heure, vous savez, le nouveau podcast d'actualité lancé par Radio France. Et maintenant voici la ville du quart d'heure. Ça paraît, par exemple, c'est la une des Échos, comme si le quart d'heure était le nirvana. Qu'est-ce qu'une ville? Un quart d'heure, douche comprise. Il s'agit de penser ou de repenser la ville pour que ses habitants puissent trouver tout ce dont ils ont besoin autour d'eux en moins d'un quart d'heure. Selon le père de cette notion, le prospectiviste Carlos Moreno, il faut trouver 6 fonctions sociales à rapprocher le plus possible: se loger, produire dignement, se soigner, faire ses courses, apprendre et s'épanouir. Tout doit se faire à pied, donc entre 1 et 4 km si on prend un vélo du lieu où vous habitez. Alors pour que ça fonctionne, pour le moment, mieux vaut habiter place Bellecour à Lyon, place du Châtelet à Paris plutôt que dans une zone périurbaine en banlieue. La ville du quart d'heure est à replacer parmi les différentes utopies urbaines. La ville à la campagne par exemple, ou bien dans les années 2010, la classe créative, les villes devaient être au service de cette classe-là, les éclaireurs du secteur tertiaire qui permettraient de faire ruisseler la richesse sur l'ensemble du tissu urbain. Alors bien évidemment, la ville du quart d'heure est parfaitement adaptée à une époque post-confinement où les grands déplacements sont ou bien difficiles ou bien moralement condamnés pour les traces carbonées qu'ils suscitent. Sauf que la ville du quart d'heure fonctionne parce qu'aujourd'hui ce n'est plus la ville mais les autres qui se déplacent. Je veux parler des différents services de livraison à domicile, des services qui ont tous un coût social et concentrent les réserves traditionnelles adressées aux emplois parfaitement précaires. Mais surtout, la ville du quart d'heure est un horizon pour le moment bien lointain à l'échelle de la France, parce que si l'on regarde l'emploi du temps des Français, chacun d'entre nous passe en moyenne 80 minutes par jour, nous dit l'INSEE, pour se déplacer, s'épanouir, faire ses courses. 83 minutes hors trajet domicile-travail, il va falloir beaucoup raccourcir la ville pour que ces 83 minutes tiennent en un quart d'heure.